en esa portería de explicar la nueva comunicación en el plural, desde luego un respeto profesional y como forma de la amistad con el inglés desde Fauntes. Con Melanis de Girona, en la comunidad ecológica, para que está muy contenta. Y el voto presentar una comunicación que tiene un petit ligam con Cataluña, que ahora es una muestra de nuevo agrimento de su madre. Para verme aquí en el historia de la lengua de Girona. Esa amistad profesional son valiosas y no me quede preocupadas. Para eso, espero que continúes y durante la marita o para que esté acá, sin catalán con el tenido. Per descompte, descomptar aquesta dedicació en català no hauria estat possible sense l'ajuda de nazis a la traducció.
Thank you.
journalistes, que l'on supprime la croyance que les Argentins qui mènent le fond de Paris, et on va supprimer 80% des détenus particuliers. Nous retrouvons la notion de cette part psychologique du rapport à la langue qui affleure dans la revendication d'une particularité linguistique. Malheureusement, cette dimension n'a pas été travaillée et la langue, la question de la langue argentine a été traitée que d'un point de vue linguistique. Son successeur, quelques mois, Agustín Miguel Escapó, historien à l'OEA, ne fera pas progresser davantage la réflexion sur cette dimension. Il faut attendre le directeur Manuel de Montoyou pour les années 25-26 et à Manuel Ronso pour la période 27-46 pour que la particularité argentine soit envisagée sur ces différents aspects sociolinguistiques, historiques et linguistiques, que la particularité argentine ne soit pas réduite au parler de la région de Buenos Aires, pareil dans notre provocation quand il est donc une particularité parmi la plate, et que l'étude qui prenait sensiblement le chemin des analyses d'une variation castratique redevienne une question qui concerne l'usage de la langue entre les Argentins. Entre Montoyou et Alonso, pour la seule année 26, c'est un anthropologue allemand, Robert Emanich, qui va prendre la direction de l'Institut et réintroduire dans le cahier des charges la création d'une section d'études des langues indigènes. Nous allons nous arrêter exclusivement sur la contribution de Montoyou et Alonso du point de vue des ressources qu'ils font requérir en nous fondant sur les textes, articles, livres, introduction de livres traduits. En effet, ce qui semble intéressant est d'analyser les ressources théoriques convoquées dans les années 20-40 pour expliquer et traiter la variation, aussi d'examiner la circulation, la déclinaison du concept pensé dans un autre contexte scientifique que le contexte argentin, qui ont trouvé audience auprès de linguistes hispaniques pour traiter la problématique argentine. Mon plan sera donc le suivant. Dans la première partie, j'ai donc fait le choix qui s'est porté de façon privilégiée sur la linguistique allemande, qui a été écrit souvent sans trop de détails ni d'attestation, que c'est plus particulièrement Humboldt et son concept de forme interne qui a été convoqué. On ajoute systématiquement que le concept a été revisité selon l'idéalisme allemand, déclinaison à laquelle on associe façon privilégiée carrière. Aussi, soulignons-moi le mot de dans cette période de reprise. Dans une seconde partie, j'aborderai le concept que nous obtient en interne et ferai des hypothèses sur ce qui a entré en résonance avec les problématiques argentines, en quoi ce concept pouvait apporter des réponses à la question du possible de langue argentine. Ce sera l'occasion de se demander comment évaluer ce qui reste du concept sorti de son appareil théorique d'origine et comment désigner les traits définitoires du voyage pour leur propre compte. Au début du XXe siècle, en Europe, on le sait, trois grandes orientations linguistiques occupent le devant de la scène. La grammaire comparée et l'école néo-grammaire marienne, le structuralisme naissant et la géographie linguistique associé à la dialectologie. Le projet de linguistique générale de Humboldt, au contraire, fondé sur la reconnaissance de la diversité des langues, est quant à lui connu mais frappé d'inactualité pour reprendre le logique de Donatella Vicenza. Pourquoi les Catalans se sont-ils tournés vers la linguistique allemande à cette période et pourquoi Humboldt? Les réponses sont sans doute multiples. Les terrains aurait-il été préparé dès 1860 par le philosophe allemand Krause, qui a été traduit par un philosophe pédagogue William Sander Rio, qui a une influence libérale mais assez déterminante dans la tentative d'une réforme culturelle de l'Espagne conservatrice du 19e, décisive aussi quant à la diffusion des sciences sociales et notable enfin dans la modération du positivisme en Espagne au profit du réalisme. Est-ce que ce sont aussi les rapports tumultueux entre la France et l'Espagne qui ont fait que le regard intellectuel et scientifique des Espagnols, en quête de ressources et peut-être de légitimation, se soit porté davantage et provisoirement vers l'Allemagne? Les romanistes allemands vont en tout cas, au début du XXe siècle, satisfaire ces besoins. Les échanges vont se nouer autour du modèle d'analyse à importer que pouvait constituer la stylistique de Gossler, Spitzer, Curtius ou encore de Rudolf Grossmann. par la littérature et la langue catalane. Grands romanistes, ils vont faire entrer le catalan dans le cercle restreint de l'entendeur d'étudier le jeune éternel à l'époque. L'activité scientifique sera intense, innombrables traductions d'œuvres littéraires, d'essais seront entreprises dans les deux sens. À titre d'exemple, Rudolf Grossmann fit connaître la littérature catalane par ses traductions, ses anthologies, notamment de poésie, et Montaigu traduisit deux ouvrages de Voltaire, l'un en catalan, positivisme et idéalisme, et un en espagnol, histoire de la littérature italienne. Il fait aussi l'édition d'un dictionnaire catalan-allemand en 1911, la première école allemande de toute l'Espagne fondée à Barcelone en 1893, la présence de romanisme allemand au premier congrès international de la langue catalane à Barcelone en 1906, ou encore le premier système de bourse mis en place par l'université de Halle pour permettre la mobilité étudiante catalane. Des noms émergent de cette densité d'échange. À titre d'exemple, le projet catalan, Pablo Escriba, part expressément à Munich en 1922 pour rencontrer Rossière et se faire expliquer sa méthode critique. Il rencontrera aussi le judiciaire. Enfin, la diffusion des idées de Bosselet a été assurée par le linguiste allemand lui-même dans le cadre d'une série de conférences données à travers l'Espagne en 1921. Les Catalans sont acquis à son approche linguistique et littéraire, et ses voyages permettront une connaissance réelle de ses travaux par bon nombre de membres du Centre d'études historiques. Les contacts directs avec Bosselet et Spitzer ont conduit par voie de fait à la connaissance des textes de Hugo. L'un et l'autre reconnaissant l'obligation de l'identité avec lui. Riba, présentant Bosselet à une conférence en 1929 à Barcelone sur la littérature universelle et la littérature nationale, évoque clairement les références théoriques de Bosselet et l'apport de celui-ci à l'étude de la langue et de la littérature. Bosselet, reprenant une tradition idéaliste, déjà un peu oubliée dans la science du langage par le Hugon, et prenant un peu de la langue, de Croce sur l'esthétique du langage a révolutionné le champ des principes méthodologiques de la philologie. Manuel de Montaigu, dans une conférence de 26, avancera lui aussi une liste de linguistes regardant la science moderne. À Bosselet, il ajoute Humboldt et Saussure. Il est intéressant de comparer ces noms avec le relevé effectué des références théoriques déclarées dans les premiers travaux de l'Institut argentin de 1924 à 1926. Même s'il faudrait évidemment analyser le contexte textuel d'apparition, nous retrouvons cité Rocher, Rochelle, Pilar, Humboldt, Meillot, Rochard, Messner, nous avons différentes tendances représentées de la philologie, les grammairiens, les historiens de la langue, les dialectologues et les analystes. Montaigu, qui avait bénéficié d'une bourse pour Halle, va découvrir les idées de Humboldt, mais il va surtout apporter concrètement à la question argentine un renouveau dans l'étude de la variation lexicale par la convocation de la géographie linguistique et de la dialectologie européenne qui impulse à l'étude des langues, une dimension du terrain et l'enquête sur les pratiques de parler régionales. Dans cet esprit, Montaigu va envisager la rédaction d'un dictionnaire de parler populaire argentin à partir d'un questionnaire. Le dictionnaire ne sera jamais finalisé, mais le projet permet de ne plus penser strictement la relation qui unit les groupes humains aux langues dans les termes du rapport langue-nation qui ne pouvait soutenir la relation du polylinguisme existant en Argentine. Montaigu pensait se rapprocher de la réalité en concevant une relation entre communauté linguistique et communauté culturelle sans une référence systématique à un territoire donné. Il entendait montrer que cette conscience du plurilinguisme n'était pourtant pas en contradiction avec un lien entre langue et nationalité, mais qu'il devait être bien étudié et selon des principes idéalistes qui cherchent une cause chez l'homme et non dans les choses. Quant à Alonso Alonso, il est celui qui va le plus marquer les orientations de l'Institut par son mandat long à la tête de l'établissement et par son intérêt réel pour la fiction latino-américaine. Il va exporter en se référant théoriquement à sa conception de la langue et en la mettant à l'épreuve du terrain. La référence à la langue comme energia, comme processus de production et non comme ergo, un produit fini, va ouvrir la porte à une pensée de la langue comme une activité Schumann jusqu'à aujourd'hui est le plus profond et génial théoricien du langage. Il a esquissé déjà en 1828 une linguistique fondée sur l'esprit et non sur la matière, concevant le langage comme action, activité et non comme déterminant. On voit assez nettement que Alonso cherche un modèle explicatif à l'évolution argentine de l'espagnol qui se fonde sur les propriétés du langage. Si la dynamique de la langue et l'implication de l'individu à ce mouvement sont théorisées, il faut aussi qualifier cette participation de l'homme. Alonso va convoquer Saussure pour asseoir dans la modernité la relation entre langue et pensée, et en prenant soin de remarquer que la double articulation d'elle s'inscrit à la suite du concept de forme interne du langage, de l'ombole, et à la catégorisation du nombre de personnes. Nous allons voir que le concept de forme interne sera de loin le concept qui va englober les différentes dimensions du rapport de l'homme au langage. Le concept de forme interne apparaît de façon stable dans le texte de Humboldt à la fin de sa vie, et surtout dans le texte écrit entre 1830 et 1835, qui est connu sous le titre d'introduction à l'œuvre sur le Gavi, qui a été publié en 1836 à titre posthume par son frère. La forme interne est une force abstraite qui émerge de la relation particulière que la nation noue avec le langage, la pensée et la réalité extra-linguistique. La nation est d'ailleurs définie par ce lien puisqu'il s'agit, je cite, d'un groupe d'hommes, individus à donner forme de façon bien déterminée à l'humain. Chez Humboldt, l'homme est toujours pensé comme un être social. Il appartient à un ensemble, à celui de la nation, à celui du groupe auquel appartient la nation et aussi à l'espèce tout entière. La forme interne du matériel compte se dégager des éléments plus concrets, des principes de structuration de la langue. En fait, la forme interne est un concept clé pour expliquer comment s'opère le processus de particularisation qui va mener à une langue à partir du langage. C'est un lieu d'inflexion où on parle de condition générale et homogène à une condition singulière et hétérogène en tenant compte des aspects historiques, sociaux, politiques, expertise communicationnelle du langage. Les traits définiteurs de la forme interne peuvent être synthétisés en trois points. Immatérialité et abstraction, manifestation de la dynamique spirituelle de la nation, alimentation de la forme interne par la nation. On peut considérer que le concept de forme interne est entré en résonance avec trois aspects de la problématique argentine. La question de l'unité de la langue espagnole, l'explication de l'évolution historique de la langue et la place de la langue littéraire. L'espagnol, unité et diversité. Alonso écrit sur ce point. La forme interne est ce qu'il y a de plus vivant dans la langue, et par conséquent de plus mouvant. L'idée lumineuse de Humboldt a été négligée par la linguistique durant presque un siècle. Aujourd'hui, elle a été placée à sa place d'honneur, et les efforts de la linguiste et des philosophes s'orientent presque exclusivement vers la portée et la signification de l'idée même. Les recherches sur le terrain sont très rares et fragmentaires. Et sur le terrain historico-linguistique, je crois qu'il n'y a rien. On n'a même pas l'habitude de faire allusion à cette condition de changement perpétuel qu'a la forme interne d'une langue. Cette même condition explique que pour toutes les langues, très étendues géographiquement, la forme interne alors que nous parlons de chaque région. En ce qui concerne l'évolution historique de l'espagnol, le concept là, de forme interne va fournir des arguments destinés à l'envie. Et c'est surtout le lien entre forme, particularité ou structuration de la langue qui est retenu. C'est ainsi que la forme interne s'invite dans le débat sur l'origine de l'espagnol d'Amérique. Est-ce que cette origine est andalouse ou pas? À partir de l'exemple très précis de la non-distinction particulièrement marquée dans le monde d'Andalousie en Amérique latine ou d'Afrique latine, qui se différencie que sur le jeu d'articulation, on retourne à la puissante déterminant de la forme interne pour développer l'idée que la structure de la langue exportée est déformée et qu'elle a évolué non pas en raison de l'influence andalouse, mais pour des raisons internes au système consonantique. Cette explication qui défend la thèse de la polygénèse des changements comme évolution à partir du langage littéraire. Nous avons constaté tout à l'heure, avec un flottement dans les noms d'instituts, les frontières entre la philologie et la linguistique avaient été longtemps, difficiles à tracer. La question de la langue littéraire, de son statut par rapport aux langues communes et orales, rejoint souvent la question plus générale de la langue. De façon plus ou moins explicite, il fait référence aux étapes de la formation de la langue, bien dit la forme interne, et à l'idée d'une volontaire que la littérature est produite lors de la dernière étape, quand la langue est stabilisée et partagée, et donc reconnaissable par la nation. C'est dans ce sens qu'un Alonso parle de l'entrelacement de la langue littéraire avec la langue orale. La langue littéraire marche sur deux pieds, et notre écrivain est au pied de deux. L'un est la tradition interne que j'ai expliquée, celle de la littérature, l'autre est la langue orale. Que le pied de la langue écrite et celui de la langue orale soient différents n'implique pas qu'ils soient indépendants. Au contraire, le raisonnement peut être celui-ci. Dans une communauté où la culture est bien socialisée, la langue écrite et la langue orale sont interdépendantes. Elles se diffusent l'une dans l'autre et vivent l'une de l'autre. Si elles prennent leur indépendance, la langue écrite est une langue forte et la langue orale un patois. Si Alonso a posé des réponses théoriques aux questions argentines, il s'est confronté au terrain et a contribué à l'explication du lexique. Dans l'exemple qui suit, Alonso s'appuie sur la forme interne pour donner sens et place aux particularités lexicales latino-américaines dans la langue espagnole. Dans le temps, induit l'évolution de la forme. qui renvoie à une organisation subordonnée et qui n'est pas la même du côté de l'Atlantique. Car nous, par exemple, pour un péninsulaire est un charbon qui peut entrer dans la catégorie des nouveaux, des mauvaises herbes. Pour le paysan de la Pampa, ce sont des objets différents qu'il ne confondra jamais. Cette distinction remonte aux conditions vues d'avant l'indépendance, où le cargo constituait la seule plante constitutive du bois qui pouvait être vendue comme bois de chauffage pour nos airs, pour tirer quelques subsistances sans se priver, étant donné qu'il disposait d'assez de potins de cheval et de vaches pour se chauffer. La référence coloniale a changé, car les conditions de vie ne sont plus les mêmes évidemment, mais la répartition demeure selon un autre. Thank you.